Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
On est le mardi 4 novembre et vous écoutez toujours et encore l'émission mensuelle Drôle de Dame sur les ondes décalées, pas pareilles et différentes, sur fréquence 7 donc. Alors, on vient d'assister à des chutes de ministres, à des recompositions politiques, voire sous forme d'ententes secrètes, mais aussi à des appels à l'union de gauche, républicaine, etc., qui donne à voir un spectacle bien désolant, voire confus. Mais attention, derrière ce spectacle, il y a, me semble-t-il, une ligne politique bien organisée, celle qui consiste à vouloir maintenir coûte que coûte le capitalisme au pouvoir et ses incarnations, ses représentants, Macron en tête, bien sûr. Alors, ce n'est pas parce que Bayrou a été démissionné et remplacé par Le Cornu que le budget 2026 proposé ne sera pas un budget austéritaire. Bien au contraire, il va y avoir des saignées sociales, écologiques et évidemment démocratiques. D'ailleurs, l'autoritarisme employé ces derniers temps par les représentants du capitalisme montre très clairement à quel point ils sont justement prêts à tout pour un passage en force de mesures peu sociales, voire antisociales, des mesures par contre pro-capitalistes et donc finalement très inhumaines. Alors, aujourd'hui, on va discuter justement autour de la nature de cette casse sociale. Qui va souffrir? Et éventuellement, comment en sortir? Alors, pour en discuter, on va s'appuyer évidemment sur les propositions faites par le gouvernement elle-même, mais aussi sur des témoignages de personnes ou d'associations qui vont donc subir les conséquences désastreuses. Mais avant, un petit tour des actualités, Claude?
Oui. On va faire un petit tour en arrière. Il a manqué 18 voix. Le jeudi 16 octobre 2025, le gouvernement Le Cornu II a échappé à la censure. Il manquait 18 voix pour que le budget austéritaire, budget de malheur, soit censuré. 7 députés socialistes ont voté la censure, 62 se sont abstenus. Le résultat de la non-censure du gouvernement Le Cornu, ce sont des attaques inhumaines contre tous les Français, sauf les très riches. Hausse de la franchise médicale, baisse du budget des hôpitaux, gel des pensions de retraite pendant 4 ans, 4000 postes d'enseignement supprimés, taxe Zucman rejetée, saignée sur les apprentis, les malades de longue durée, etc. La volonté de casse sociale va crescendo. La bourgeoisie ne lâchera rien. Le partage équitable des richesses, pour elle, c'est un gros mot. Le collectif Les Morts de la Rue a publié jeudi 30 octobre 2025 un recensement sur les personnes sans abri en France. Elles sont plus de 350 000, 20 000 de plus qu'en 2023. 900 personnes sans logement fixe sont décédées en 2024. 24 556 ménages expulsés, c'est une hausse de 29% en janvier et 223% en 20 ans. En un an, pardon, 29% en un an et 223% en 20 ans. Les sources Fondation pour le logement. En même temps, Bernard Arnault voit sa fortune augmenter de 19 milliards en une seule journée. Ça fait beaucoup de logements et de repas pour ceux qui ont faim, froid et faim. Ils osent tout, c'est à cela qu'on les reconnaît. Amélie de Lombard de Montchalin, ministre de chargée des comptes publics, déclare « Nous avons besoin de plus de militaires, de plus de policiers et plus de gendarmes. Mais nous faisons le constat qu'il y a moins d'élèves, donc on a moins besoin de professeurs. On a compris leurs priorités. » Septembre 2025, Emmanuel Macron se couche devant une décision de l'Union européenne. Il impose par ordonnance l'interdiction à partir du 20 septembre 2026 des découverts bancaires. Alors que 22% des Français survivent à partir du 16 du mois uniquement à l'aide du découvert autorisé, il leur faudra demander l'autorisation à leur banquier chaque fois. C'est pas Macron qui a fait 1300 milliards de supplémentaires de dettes, et à qui a-t-il demandé l'autorisation ? La France Insoumise a déposé une proposition de loi pour l'abroger. Dans le budget 2025-2026, que devient l'écologie? C'est un budget qui va creuser la dette climatique, baisse de 500 millions d'euros de crédit MaPrimeRénov, division par deux du fonds vert. Pendant ce temps-là, le dérèglement climatique continue à faire des victimes. Ne les oublions pas. En 2024, 107 femmes tuées par leur conjoint, chiffre en hausse de 11%. Ça fait moins de bruit que le vol des bijoux de la couronne du Louvre. Le jeudi 23 octobre 2025, à l'Assemblée nationale, adoption de la proposition de loi intégrant la notion de non-consentement à la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. 155 députés ont voté pour, 31 ont voté contre, dans les 31, 27 RN et 4 UDR, parti de M. Ciotti. L'extrême droite protège les agresseurs. Du chaos voulu par Macron naîtra une nouvelle république, la sixième, et qu'elle vienne vite.
Ouf, bon, eh bien. Bon, alors, Daniel, quel avenir donne à voir donc ces coupes budgétaires qui sont prévues par Lecornu et ses amis ?
Bon, alors, Claude en a évoqué un certain nombre. Là, je vais parler plus particulièrement de ce qui concerne la santé, qui est dramatique pour 13 millions de malades chroniques en affection longue durée, ce qu'on appelle ALD, qui sont en alerte face au budget de ce budget Lecornu, et qui va doubler les franchises médicales et durcir les conditions d'accès aux dispositifs ALD et qui menace l'accès aux soins pour des millions de Français. Donc, d'un côté, ils refusent de taxer les riches, mais ils sont capables d'inventer une taxe sur l'indemnisation de la maladie. Alors, au-delà des ALD, les témoignages convergent sur un sentiment d'asphyxie financière générale aggravé par l'année blanche. Vous savez qu'avec l'année blanche, ça fait gel des prestations et gel des retraites. Donc, face à l'augmentation de l'autre côté des prix électricité, gaz, biens de consommation, ça devient dramatique. Donc, l'effet domino du gel des barèmes fiscaux, une personne modeste pourrait devenir imposable et perdre ses APL. Les restes à charge qui augmentent vont donc faire augmenter les mutuelles et c'est un coût supplémentaire pour tout le monde. Donc, ce budget va provoquer une explosion des précarisations et faire craindre les baisses de moyens pour les maisons départementales des personnes handicapées, qui sous-évaluent déjà les situations des familles avec un enfant handicapé. Donc, tout ça, c'est dramatique, toutes ces coupes. Et puis, d'un autre côté, il n'y a aucun budget prévu pour la santé mentale des jeunes, alors que les statistiques sont toujours très inquiétantes. Les données épidémiologiques récentes révèlent une dégradation préoccupante de la santé mentale des jeunes en France et en Europe. Les principaux chiffres et tendances, prévalence des troubles, un tiers des jeunes présentent des signes de troubles anxieux ou dépressifs. Un âge critique, 75% des troubles psychiques se développent avant 25 ans. Isolement parmi les jeunes, déclarant se sentir mal, 7 sur 10 n'en ont parlé à personne. Et puis, une absence d'activité physique qui fait que 87% des adolescents français de 11 à 17 ans ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique. Et c'est un phénomène qui, d'usage excessif des écrans. Donc, les facteurs influençant la santé mentale des jeunes incluent les discriminations, la stigmatisation, les bouleversements identitaires et émotionnels propre à l'adolescence, ainsi que l'hyperconnexion aux écrans.
Oui, alors d'ailleurs, à ce propos de la santé mentale des jeunes, dans les établissements scolaires, en fait, il n'y a effectivement aucun moyen, justement, pour pouvoir tendre la main à ces jeunes, puisque précisément, en fait, on va à des moments donnés, organiser des espèces de formations qui pourraient permettre au personnel encadrant justement de reconnaître les premiers signaux d'alerte dans une certaine mesure, sachant que, et fort heureusement, que tout ce qui va relever du domaine médical et psychologique, bien évidemment, revient aux infirmières, infirmiers, médecins scolaires, sauf que il manque cruellement d'infirmiers, d'infirmières scolaires. Et quant aux médecins scolaires, en tout cas moi dans l'établissement dans lequel j'exerce, je n'en ai jamais vu l'ombre d'un seul, quoi. Donc à un moment donné, on fait ce constat-là, tout le monde va mal, y compris les jeunes, et ça je peux effectivement le confirmer, mais on continue. Donc c'est plus un manque de compétences en fait hein, des gouvernants, ce sont des mesures mais abjecte là ce qui sont en train de pondre pour dire les choses très clairement, mais comment est-ce possible, franchement? C'est
est-ce que les enseignants s'en rendent compte du mal-être de ces étudiants?
Bien sûr, oui, oui, on est quand même assez nombreux à se rendre compte de cela et être démunis et impuissants face à cela. Parce que, effectivement, dire qu'il semblerait que tel ou tel individu aille pas bien, sans pouvoir faire finalement quoi que ce soit, c'est quand même, ça peut être assez lourd, justement, à porter. Et puis, c'est compliqué d'avoir cette espèce d'injonction qui consisterait justement à s'occuper personnellement d'un individu, quand dans le même temps, ça c'est la spécialité de la Macronie, quand dans le même temps, les effectifs des classes augmentent. Des terminales à 36 élèves par classe, maintenant ça devient monnaie courante, quoi. Donc moi je veux bien, mais ça devient à la fois compliqué d'un point de vue strictement des conditions de travail, mais en même temps, moralement et psychologiquement parlant, ça peut devenir compliqué. Parce que quand on travaille avec des jeunes et qu'on voit des individus en souffrance, forcément, ça nous met, enfin, en tout cas moi personnellement, ça me met mal à l'aise aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Mais je crois que Daniel, tu as encore d'autres choses, hélas, à évoquer, quoi.
Oui, parce que c'est véritablement une casse sociale. Hein. Ouais. Donc on a des mesures générales absolument néfastes qui vont précariser encore davantage, parce qu'on peut dire que les plus pauvres sont précarisés, mais là encore plus, c'est comme par exemple le gel des pensions de retraite, autrement dit leur non-indexation sur l'inflation, qui va représenter une baisse de pouvoir d'achat pour 18 millions de personnes. Le gel des prestations sociales, soit une baisse de pouvoir d'achat pour notamment les 4 millions de ménages percevant les minima sociaux. Le gel du point d'indice de la fonction publique, soit une baisse de pouvoir d'achat pour 5,8 millions d'agents. Le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, qui va notamment faire entrer au moins 200 000 foyers qui ne payaient jusqu'ici pas d'impôt dans la première tranche et leur faire perdre au passage l'accès à certains droits comme l'aide à la cantine, les tarifs sociaux pour l'énergie et l'eau ou le transport gratuit dans certaines villes. On a aussi le doublement des montants et plafonds des franchises médicales et participations forfaitaires. Hein, doublement des franchises, ça va aussi peser lourd. La fiscalisation des indemnités d'arrêt de travail, dans le cas affection longue durée. Et, au final, la baisse du salaire des apprentis, la baisse du salaire net des apprentis, afin que la fin de l'aide et ensuite la fin de l'aide au permis, c'est-à-dire que l'indemnité de l'apprenti va être taxée, et on lui supprime l'aide au permis de conduire qui leur était accordé. Donc tout va bien.
Tout se passe comme si, en fait, on culpabilisait les gens, quoi. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors du coup, justement, Claude, tu voulais évoquer... quelques témoignages dont tu as entendu parler et qui t'ont profondément touché.
Oui, un reportage de FR3 Champagne-Ardenne. Les subventions des associations subissent des coupes drastiques, notamment sur les associations qui viennent en aide aux plus pauvres. Malgré cela, coûte que coûte, certains résistent. À Nancy, l'association Les Bruits du Cœur organise des distributions de repas aux plus démunis à l'aide de son food truck. Les bénéficiaires témoignent. Le système actuel ne pense pas aux pauvres. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Je fais partie des plus démunis de cette société. Eux me dépannent d'un repas au moins une fois par semaine. Heureusement qu'il y a des gens comme eux. Il n'y a pas que de la haine dans ce monde, il y a aussi de l'amour et c'en est une preuve. Le responsable de l'association ajoute un petit mot. Pour moi, le public à la marge, il n'est pas figé. Les gens que vous avez vus, c'est peut-être nous plus tard. C'est fragile. Le mot de la fin, c'est que le début.
Eh bien, bon. Daniel, encore quelques...
Encore quelques merveilleuses initiatives du gouvernement, avec de sévères coupes dans les dépenses publiques, entre autres, et notamment dans les ministères visiblement jugés peu essentiels par le gouvernement. Par exemple, moins 2,5 milliards d'euros pour la mission Travail et Emploi, moins 900 millions d'euros pour la mission Cohésion des territoires, qui inclut le logement et la politique de la ville, moins 800 millions d'euros pour la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, formidable, moins 300 millions d'euros pour la mission Jeunesse et Sport, et moins 200 millions d'euros pour la mission Culture. Tout va bien ?
Mais plus 7 milliards pour l'armée.
Et voilà.
Ouais. Bon, donc ce sont toutes les missions qui portent sur le lien social, sur, sur la culture. Bref, tout ce qui fait de nous, en fait, des fondamentalement êtres des êtres humains.
Absolument.
Voilà. Qui sont donc touchés.
On a le sentiment qu'ils sont en train de construire une société de gens miséreux, quasiment, ça va être la misère, hein, sans service public, sans éducation, sans soins, ça va être carrément la misère. Donc ce sont des esclaves qu'on pourra manipuler, parce que quand on est en survie, ben, c'est pas là qu'on va se révolter. Hein. On n'a pas le temps. On cherche de quoi survivre.
C'est ça. T'as plus les moyens. Ouais. Même, t'es pas disponible. D'un point de vue, quand c'est l'estomac qui parle, c'est compliqué de finalement prendre conscience du fait que...
Quand tu bouges, on te matraque.
Voilà.
Les gilets jaunes.
Voilà. En plus. Ouais. Les écolos, maintenant, qui sont des éco-terroristes.
Éco-terroristes.
Voilà. Ouais. Alors du coup, Daniel, tu voulais justement nous dire quelque chose à propos
oui,
de...
Oui. Je voulais dire je vais le dire avec ironie, parce que certains, malheureusement, pensent que le Rassemblement national serait une solution. On nous dit, par exemple, on n'a jamais essayé. Moi, souvent, je leur réponds, oui, mais on n'a jamais essayé la Morora non plus. Hein? Parce que... Bon. Mais alors là... On a un exemple très concret, c'est que le Rassemblement national, pour la première fois, a annoncé un contre-budget. Attention. C'est-à-dire qu'il a officiellement donné des chiffres de ce qu'il ferait. Eh bien, figurez-vous que grâce au Rassemblement national, c'est 80 milliards de coupes budgétaires qui seraient prévues, donc deux fois plus
que la Macronie.
Alors, comment ils font ? Eh bien, voilà. C'est une signature néolibérale spectaculaire. On a perte de la prime d'activité pour 100 000 personnes en situation de handicap. Perte de la prime de naissance pour les jeunes parents. Suppression de l'allocation décès jeune enfant. Vous voyez jusqu'où ça va. Doublement des franchises médicales. Franchise sur les lunettes. Fauteuil roulant, pacemaker, etc. J'en passe parce que la liste est longue. Abaissement du seuil de la TVA des auto-entrepreneurs et petits commerçants. C'est-à-dire que là, ça va leur coûter cher. Suppression pour 60 000 apprentis mineurs de l'aide pour le permis de conduire. Eux, ils sont tout à fait d'accord avec cette... On ne va pas les aider. 7 milliards d'économies sur la santé. 1 milliard de moins pour l'hôpital. Et 4 600 postes de profs en moins. Et puis, l'immigration est évidemment la première visée et frappée, au-delà de l'absurde, avec 11,9 milliards d'économies. Donc, au total, ils sont bien d'accord avec le budget de Lecornu et ils doublent donc les coupes. Et on sait que le plan, ça a été calculé, le plan Lecornu, déjà, fait baisser la croissance de 0,8 points. Donc, quand il y a baisse de la croissance, ça veut dire que tout s'écroule, hein, ça, c'est de pire en pire, hein, il n'y a aucune relance. Les gens ne peuvent même plus dépenser de quoi vivre. Donc tous les services, je ne sais pas moi, les habituels, les restaurants, les coiffeurs, tous les gens qui vivent.
C'est la récession.
Voilà. Alors non, là ce serait baisse de la croissance, mais avec le RN qui coupe le double, on pourrait rentrer en récession. Donc voilà la proposition du RN, je la trouve magnifique quand même. Il faut y aller, hein. On n'a jamais essayé. Essayons la récession. Alors, par contre, le Rassemblement national ne propose aucune mesure contre la pauvreté, pardon, excusez-moi, ni hausse du SMIC et des salaires, ni dégel du point d'indice des fonctionnaires, et pas d'augmentation des minimaux sociaux. Et puis, le contre-budget du RN ne prend absolument rien aux riches, ni ISF, ni taxe Zucman. Bien au contraire. Comme Mme Le Pen fait partie des milliardaires, hein, parce qu'on peut dire qu'avec son Montretout, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, son château, là. Au contraire, pour les plus riches, c'est 16 milliards d'euros de baisse d'impôts supplémentaires pour les entreprises. Et c'est aussi le refus de revenir sur la flat tax, la fameuse flat tax, dont découle l'avantage pour le capital d'être moins taxé que le travail. Et qui bénéficie à 92% aux 1% les plus riches. Et voilà.
Et voilà. Donc en fait,
programme du RN.
Tout ce qui touche au domaine de la vie, en fait, le RN sabre, c'est quand même extraordinaire.
Encore plus que le cornu, c'est fantastique. Ouais.
C'est ça, et on essaye de faire croire que...
C'est l'alternative.
Que ce soit pratiquement l'alternative. Alors moi, justement, il y a quelque chose qui me sidère, en fait, dans cette propagande à propos, justement, du RN, c'est le fait d'entendre dire et de continuer de dire que l'immigration, justement, serait un coût. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Et c'est largement démontable comme propagande. Déjà, d'un point de vue, justement, de ce qui n'est pas mesurable, d'un point de vue de la culture, etc., eh bien, c'est tout ce que les exilés et autres personnes qui arrivent en France... Souvent, d'ailleurs, et ça on ne le dit pas, souvent à cause du dérèglement climatique, donc qui est complètement absent du programme du RN, eh bien on a un apport culturel extrêmement, extrêmement riche. Et d'un point de vue strictement économique, il y a des études qui montrent que l'apport en fait de la population immigrée est conséquente puisque c'est une population qui est davantage en âge d'être active que la moyenne. Et il y a eu des études qui ont été menées par des économistes qui ont sorti avec l'Institut La Boétie, qui est une fondation insoumise, qui ont sorti une note qui s'appelle justement « La France grâce à l'immigration ». En finir avec les idées reçues sur le coût de l'immigration. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est dans cette note, justement, qu'on peut lire que, en 2018, par exemple, 76,8% de la population immigrée en France est âgée de 15 à 64 ans, contre 60,7% pour les natifs et les natives. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, justement, les travailleurs et les travailleuses immigrées contribuent, de ce fait, en moyenne, davantage que les autres ménages, aux caisses de la protection sociale, à l'assurance chômage et à notre système de répartition de retraite, pardon, par répartition. Alors évidemment, à condition de vouloir sauver ce système de retraite par répartition, ce que bien évidemment le RN ne veut pas. Alors donc pourquoi ça permettrait de sauver tout ça ? Bah parce que le financement justement repose sur les revenus du travail et ce malgré pardon.
Bien sûr, bien
et
sûr.
Et voilà, tout à fait, quoi. Donc, du coup, leur apport est d'autant plus positif que, d'un point de vue purement comptable, ce n'est pas la dépense publique française qui a financé leur éducation et formation, en plus. Puisque les travailleurs et les travailleuses immigrées, et là, je cite un économiste, disposent dès leur arrivée dans le pays d'accueil d'un certain niveau de formation et de connaissances acquises dans le pays d'origine. Et donc, ça veut dire que, justement, non seulement ils nous apportent leur savoir-faire, mais d'un point de vue comptable, puisque c'est très important, n'est-ce pas, pour nos amis qui sont au gouvernement, eh bien, leur apport est tout à fait important. Et je voudrais enfin terminer...
Il ne nous a rien coûté.
Eh oui, bien évidemment, quoi. et en fait, vraiment ce dont il faut prendre conscience, c'est aussi des mensonges qui sont donnés d'après la propagande qui consiste à dire que, par exemple, du côté du RN ou même du côté de Zemmour, quand on parle d'une submersion migratoire ou je ne sais pas quoi, si on regarde d'un point de vue global, la France et même l'Europe, d'ailleurs, sont globalement très peu concernées par le phénomène migratoire mondial. En revanche, on sait que le chiffre va augmenter précisément par et à cause du dérèglement climatique. Ça, c'est évident que ça va devenir une force majeure des migrations. Et toutes les organisations de l'ONU, en fait, l'expliquent très clairement. Puisqu'il est déjà mentionné le fait que 21,5 millions de personnes dans le monde ont été forcées de se déplacer pour des raisons climatiques chaque année entre 2008 et 2016. Et ces chiffres sont amenés à augmenter dans les prochaines décennies. Donc, de fait, c'est bien du côté de la transition écologique qu'il faut justement travailler pour faire en sorte à ce que tout le monde puisse vivre paisiblement. Daniel ?
Alors j'ai juste envie d'ajouter que ce qui est terrible dans tout ça, c'est qu'on fait des reproches à ces immigrés climatiques, alors qu'ils sont les moins responsables du dérèglement climatique, et que le dérèglement climatique, c'est essentiellement les plus riches de nos pays, et qui ont abusé par tous les bouts, et qui participent à ce dérèglement climatique.
Donc c'est effrayant. Le capitalisme qui tue la planète.
Oui. Oui, non, mais c'est ça. En fait,
Mais on le reproche à eux, quand même.
C'est ça. Mais on rend coupables tous les individus qui, justement, sont absolument pas coupables de quoi que ce soit. Quoi. Donc c'est quand même assez...
Délirant.
C'est exactement ça. Et voilà. Alors donc, Claude, peut-être que tu as des choses à rajouter.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé déjà avec 2 semaines de retard. Le plan de la Macronie, c'est de faire traîner les choses. De temps en temps, effectivement, certains parti dit de gauche les aide un petit peu à prendre des décisions antisociales, et ça c'est dramatique. Mais au bout du compte, le cornu ne voit qu'une chose, c'est que dans quelques semaines, dans quelques jours, arrivera la fin des débats, et il va prendre ou une loi spéciale, ou il le fera voter par ordonnance, mais son budget passera. Ouais. Il a fait semblant d'être démocratique et de supprimer le 49-3, mais il ne faut pas s'illusionner, son but c'est de faire voter son plan de malheur, comme dit certains députés de gauche. Et il va y arriver. Et je pense qu'il va être maintenant... Pardon, mais les gens qui ont encore un peu à manger, qui ont encore un peu de... sur qui la corde n'est pas encore trop tirée, il faudrait vraiment qu'on se bouge. Mmh. Qu'on se dise, c'est plus possible. Quoi. Enfin, on ne peut pas laisser une nation devenir... On était quand même le pays des Lumières. Et là, on devient une société pratiquement du quart-monde, si on les laisse faire. Il faut vraiment que ça s'arrête.
C'est vrai. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, il faudrait déjà commencer par abroger les super-pouvoirs du monarque.
Ouais.
Et donc, changer
de constitution.
Voilà, changer de constitution et sans doute passer à une
sixième république.
Une sixième république. Donc,
et vite.
Ouais, très très vite même, me semble-t-il. Donc voilà, c'est la fin de l'émission. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes, à tous. Merci Sylvain.
Merci,
et à
Sylvain.
Très bientôt.
Fermiers ouatés, la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est... sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, 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 tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.